Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, en cette émission du vendredi 17 avril 2026, nous vous diffusons le montage de morceaux choisis de la conférence internationale sur les prisonniers politiques qui avait lieu le samedi 11 avril 2026 au complexe sportif Nelson Mandela à Saint-Denis. Bonne écoute.
Bonjour à tous, bienvenue à la conférence des prisonniers politiques. Merci à tous d'être venus, d'avoir répondu à l'appel. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier discours que Zehra Courtaille va nous faire. Zehra Courtaille qui a fait une résistance de la grève de la faim pendant 219 jours à Paris, à Strasbourg-Saint-Denis, dans une tente qu'elle a ouverte devant les yeux de tout le monde. Et donc c'est là qu'elle a résisté pendant 219 jours pour que son droit à l'asile politique lui soit restitué et pour annuler son renvoi vers la Turquie, puisque le gouvernement français, puisque l'impérialisme français avait voulu la renvoyer en Turquie, là où elle est menacée. Donc je lui laisse la parole, merci beaucoup.
Bonjour. Chers amis, chers camarades, bonjour. Je vous transmets les salutations de nos camarades prisonniers en résistance. Et je vous salue avec leur esprit de lutte. Je salue nos camarades prisonniers qui résistent en Turquie au prix de leur vie. Je salue ceux qui sont en grève de la faim illimitée. Je salue les prisonniers palestiniens dans la Gaule du sionisme. Je salue tous les révolutionnaires emprisonnés par l'impérialisme et le fascisme. L'histoire est écrite par ceux qui résistent. Chaque notion est de classe. La prison aussi est une notion de classe. Les prisons sont un champ de bataille. Deux idéologies s'y affrontent. Pour révolutionnaires, les prisons sont un terrain de lutte. Pour l'impérialisme, elles sont un lieu pour détruire la révolution. La lutte entre les classes y est menée dans sa forme plus dure. Jusqu'à aujourd'hui, les prisons ont été pour l'impérialisme une machine pour broyer les organisations révolutionnaires. Beaucoup ont été détruits dans les prisons parce qu'ils ont été vaincus derrière les murs. Mais pour nous, les prisons sont une école de lutte, une école où le révolutionnaire grandit. L'impérialisme et le fascisme ont échoué dans les prisons en Turquie. C'est pourquoi. Parce que les prisonniers révolutionnaires ne sont pas rendus. Parce que la révolution s'est renforcée dans les prisons. L'impérialisme n'a pas pu soumettre les prisonniers révolutionnaires de Turquie. Il y a donc deux histoires des prisons. Celle des vainqueurs et celle des vaincus. L'histoire des vaincus est celle de soumission. Les prisonniers révolutionnaires de Turquie n'en font pas partie. Ils ont écrit l'histoire des vainqueurs. Je salue avec respect nos martyrs qui ont écrit cette histoire. Dans notre pays, l'histoire de la lutte révolutionnaire est aussi celle des prisons. Ces deux histoires sont liées. Une tradition de prisonniers libres, née dans les années 1980. Cette tradition repose sur un principe, ne jamais se rendre. Et oui, nos prisonniers ne se sont jamais rendus. C'est pourquoi ils n'ont jamais été vaincus. Face à cela, l'impérialisme et le fascisme ont dû inventer sans cesse de nouvelles politiques. La politique d'isolement en est un exemple clair, mais elle a échoué dans notre pays. 7 ans de grève de la faim ont repoussé cette attaque. 122 martyrs ont permis cette victoire. J'y ai moi-même participé. Toutes les décisions prises dans les centres de l'OTAN ont été mises en échec par les prisonniers révolutionnaires. Voilà la vérité. Aujourd'hui encore, les prisons de type isolement profond sont une nouvelle attaque. Nos camarades ont répondu par la résistance, avec des grèves de la faim illimitées. Ils ont infligé de fait après de fait. C'est pourquoi nous le disons. Aucune politique ne pourra soumettre les prisonniers révolutionnaires. En conséquence, chers camarades, des prisons du sionisme aux prisons du fascisme en Turquie, tous les prisonniers qui résistent et ne se rendent pas sont les nôtres. Tous les prisonniers résistants du monde sont le nôtre. Les prisonniers en résistance sont notre honneur. Ils sont l'honneur du peuple du monde. Et nous défendrons cet honneur contre toutes les politiques visant à briser nos camarades. Nous devons nous unir et lutter. Je salue tous les prisonniers résistants du monde. Honneur aux prisonniers révolutionnaires qui ont vaincu l'impérialisme, le sionisme et le fascisme.
Et maintenant, nous voulons donner la parole à la délégation qui s'est rendue en Turquie pour enquêter sur les nouvelles prisons construites en Turquie, les prisons qu'on appelle de type PUI, les prisons SRY. Donc la délégation s'est rendue en Turquie pour enquêter sur cela, mais a été renvoyée après avoir été rentrée en Turquie. Et donc je vais leur laisser la parole. Merci à tous.
Du coup, je vais laisser Jean-Pascal Galatani, qui est membre de l'équipe éditoriale de la revue Marxiste-Léniniste Supernova et qui était le représentant du Front anti-impérialiste dans cette délégation. Et Nick Krekerberg, qui fait partie de Zanekin Bond, un socialiste révolutionnaire flamand. Donc je vais les laisser prendre la parole pour nous faire part de leur expérience et partager leur témoignage.
Oui, d'abord remercier la CGT Énergie pour nous avoir permis justement de pouvoir accéder au lieu et pouvoir organiser cette conférence. Je vais parler de notre expérience, effectivement, et parler de manière un petit peu plus générale, puisque mes camarades, comme vous le verrez, se sont très largement expliqués sur les conditions de notre arrestation et comment tout ça s'est passé. Pour nous, donc, pour le front anti-impérialiste, on vient de vivre une phase de 20 ans de conflictualité sociale qui a été ponctuée par beaucoup de défaites dans le monde du travail. On y voit la conflictualité se faire aujourd'hui beaucoup plus sur le terrain politique en France. Donc on a pu largement s'exprimer sur notre expulsion politique qui s'est faite les 19 et 20 février passés. Il s'agit d'une nouvelle expulsion pour des membres du Front anti-impérialiste, parce que je rappelle qu'on a déjà eu une expulsion qui a été imposée par le gouvernement collaborateur d'Égypte, qui a illégalement expulsé des militants qui voulaient rejoindre le peuple palestinien dans sa lutte et dans sa résistance contre l'entité sioniste à Gaza l'année dernière. C'est donc tout normalement que nous avons décidé d'organiser une rencontre avec les avocats et les défenseurs des prisonniers politiques du Front populaire en Turquie, il y a 2 mois, un petit peu moins. Ces mêmes militants qui portent ici en France l'affrontement, qui montrent, comme l'a fait Zera, leur acharnement à imposer la lutte, je pense que vous l'avez compris, dans tous les aspects de la vie. Ces mêmes conditions d'isolement et d'emprisonnement qu'on voit en Turquie, on les a connus d'une certaine manière en France avec les quartiers de haute sécurité. Plus récemment, je pense aussi aux prisonniers politiques, par exemple les membres du commando Erignac, qui ont dû faire face à des logiques d'isolement qui sont les dernières armes qui sont entre les mains des impérialistes pour arrêter nos militants et pour les empêcher de lutter. Ces mêmes prisons d'exception que nous promet aujourd'hui le ministre Darmanin avec son tout nouveau attirail de justice d'exception et la mise en place de prisons spécifiques officiellement au système mafieux, mais généralisables, bien entendu, aux militants politiques. Il était important pour nous de demander à voir donc, les prisons de type puits, pour toutes ces raisons, et aussi parce que cela apporte de la force aux camarades. Nous sommes ici pour briser l'isolement qu'impose la Turquie et démasquer les intérêts conjoints du régime avec les régimes impérialistes ici. Aussi parce que les camarades nous portent de la force et mènent la lutte à nos côtés dans la métropole impérialiste. Il est inacceptable, inconcevable et que le fascisme, que le pouvoir turc s'abatte comme ça sur les militants anatoliens. Et non seulement c'est pas acceptable, mais en fait ça n'est pas accepté. Et on le voit, comme en Eşkaleri, il y a depuis 40 ans, l'interdiction et la criminalisation du parti, en l'occurrence des mouvements et du parti Batachoun, s'étend sur toutes les formes de solidarité et de reproduction de la lutte. Et la répression, bien entendu, elle commence sur les militants révolutionnaires et les organisations révolutionnaires, puis elle s'étend, comme ça a été le cas pour les camarades, sur les soutiens, sur les comités de prisonniers, puis sur les comités des avocats, sur les comités des journalistes. Et c'est pour cette raison aussi que notre délégation contenait des militants politiques, des journalistes et des avocats. Les camarades nous l'ont martelé quand nous les avons rencontrés là-bas en Turquie. Les formes que prennent leur résistance dans une situation d'extrême isolement qui est imposée par le pouvoir turc, ces formes sont souvent des pratiques auxquelles on n'est plus préparé en France. Je parle de la grève de la faim, je parle bien entendu des formes radicales que prennent la lutte dans les prisons turques. Mais en fait, ils nous ont aussi rappelé que ce sont des formes qui sont souvent nées en Europe, dans le vieux mouvement ouvrier et les luttes de libération nationale dans les prisons, notamment en Irlande, qui aujourd'hui peut-être n'existent plus comme un phénomène massif, et ce du fait souvent de l'abandon par les organisations révolutionnaires de leur caractère politico-militaire. Nous affirmons, à l'issue de ces rencontres, que l'État turc a eu peur, et peur de voir le sang qui couvre ses mains auprès des, enfin, se répandre ou en tout cas être visible aux yeux des travailleurs du monde entier. Il n'assume pas ses crimes et il qualifie de terroristes toutes les organisations de résistance. On veut affirmer aussi que la France est complice, à plus d'un titre. Nous allons poursuivre en justice les autorités françaises pour sa non-assistance dans le cadre de notre arrestation, de mon arrestation, plus particulièrement, puisque je suis le seul ressortissant français de la délégation. Les autorités ont répondu aux camarades qui leur avaient informé de nos arrestations arbitraires, dans lesquelles, je rappelle, qu'on nous a refusé le fait d'appeler un avocat, d'appeler l'ambassade, tout nous a été refusé. Il nous a été répondu par les autorités françaises qu'ils n'étaient pas à Istanbul, mais à Ankara, et que donc ils ne pouvaient rien faire. Le second titre, et pas des moindres, il est affiché aussi dans les centres de rétention administrative dans lesquels on a été amenés, les mêmes centres de rétention que nous avons ici en France. Ce même État qui est incompétent pour défendre nos droits élémentaires, comme je viens de dire, Il est en revanche très connecté avec l'État fasciste turc pour enfermer les prolétaires immigrés, comme l'affichent fièrement tous les algécos qu'on a pu voir dans les centres de rétention qui sont peinturlurés avec le drapeau européen. Vous pouvez bien rappeler que c'est grâce aux subventions et aux sous des travailleurs qu'on enferme les autres dans des camps en Turquie. Et nous affirmons enfin que la Turquie est un pouvoir fasciste qui est sous la houlette de l'Empire américain et de l'OTAN, ce qui nous relie aujourd'hui à notre mobilisation pour les prisonniers politiques contre l'OTAN. Pour nous, l'internationalisme, c'est la forme de la résistance et de l'organisation la plus adéquate pour affronter le capitalisme aujourd'hui. Cela n'est aucunement contradictoire avec notre solidarité et le fait que nous soyons parfois même à l'avant-garde des luttes de libération nationale. Une chose relie les peuples opprimés et le prolétariat, c'est l'impérialisme. L'impérialisme, c'est la forme que prend le capitalisme aujourd'hui dans sa putréfaction. Débarrassé des illusions qu'elle a diffusées pendant les années précédentes, en temps de paix, dans les pays du centre, la main invisible, la concurrence libre et non faussée, le concert des nations, le capitalisme réapparaît aujourd'hui sous sa forme la plus pure, la plus rétrograde, le capitalisme monopoliste, dirigé par les mécanismes du capital financier et banquier. L'histoire montre que les périodes de guerre dans lesquelles nous sommes produisent un double effet. D'un côté, elles engendrent des formes extrêmes de violence, de désorganisation, de recul social pour les populations. Et de l'autre côté, elles déstabilisent profondément les structures d'État. La remise en cause de l'ordre établi, nous l'affirmons ici une fois de plus, se fera de manière politique et militaire. La séparation des formes légales et illégales sous l'apanage de ceux qui créent les lois, et les lois sont l'enregistrement des rapports de force du moment où on les met en place, au service du maintien de la classe au pouvoir, tout ça, nous n'en avons absolument aucune illusion. Le mouvement communiste est un mouvement qui affirme et s'organise en permanence dans et hors des cadres de la légalité. La légalité, c'est le fruit du consensus que parvient à obtenir l'État dans le bloc bourgeois pour réprimer par sa police et les institutions les prolétaires. C'est pour cela qu'il nous apparaît de parler aujourd'hui de la situation des prisonniers politiques et d'affirmer la nécessité de rassembler les forces des prisonniers face à l'impérialisme, à l'OTAN. Parce que l'engagement des prisonniers politiques, c'est pas seulement les prisonniers politiques, c'est aussi leur famille, c'est aussi leurs proches, c'est toute une structure qu'on essaye de réprimer, et c'est la condition de la continuité du combat. Parce que l'engagement des prisonniers politiques n'est pas seulement un héritage qu'ils laissent aux portes des prisons, et que la résistance continue, comme l'a dit Zera, à l'intérieur des prisons. Nous affirmons qu'aujourd'hui, le combat du devenir de l'humanité, c'est la fin de l'emprise de l'OTAN et l'isolement des États-Unis, de ses alliés, dont la France est un des piliers. Les luttes menées ici, qui ont vu des milliers de prisonniers politiques dans les mouvements de libération nationale donner des centaines de milliers d'années de leur vie en Irlande, en Escaleria, en Corse, en Kanaky ou ailleurs, n'auraient jamais survécu s'il n'y avait une telle intensité et sans lame de fond des soulèvements anti-impérialistes. Y aurait-il un FLNC ou un FLNKS s'il n'y avait pas eu de FLN ? En France, plus que n'importe où en Europe, l'impérialisme revêt un caractère central, indigène, dans toutes nos luttes. Le déploiement ininterrompu des troupes sur le continent africain pourrait être listé comme une espèce de liste désespérante de toutes les opérations Limousin, Bison, Taco, Manta, Épervier, Barracuda, Almandin, Norrois, etc., etc. 200 ans de présence ininterrompue des forces militaires françaises sur le continent africain, 60 ans d'opérations néocoloniales. La forme que prend l'impérialisme en ce temps d'écrasement de la Palestine, des tentatives d'éradiquer la résistance en Iran, c'est la fascisation. Ce processus de fascisation, il consiste en la radicalisation de la bourgeoisie française, du renoncement aux plus simples formalités de la démocratie bourgeoise, à l'illégalisation d'une part grandissante de la population avec la loi d'immigration en 2023 et la mise de la nationalité comme conditionnelle qui de facto annule le droit du sol, ou encore aujourd'hui la loi Yadan qui propose de criminaliser toute contestation de l'État d'Israël à l'heure où les bombes tombent sur Beyrouth. Tandis que le pacte racial islamophobe s'étend en France, rien nous épargne. Dans le même temps, la répression et l'emprisonnement croissent chaque jour, atteignant un chiffre record aujourd'hui de 85 000 prisonniers, soit 15 000 de plus qu'avant le début du mouvement des Gilets jaunes il y a 8 ans. Dans ce contexte, tout devient politique. L'encadrement économique et impérialiste à marche forcée se fait chaque jour plus au détriment du prolétariat français. Défendre l'identité politique des prisonniers anti-impérialistes aujourd'hui, c'est assumer ce qu'on appelle aujourd'hui l'arc républicain dans les médias bourgeois, ce n'est que l'inexorable resserrement du champ des possibles économiques et politiques qu'impose la fascisation des classes dominantes, qui nous annonce plus de répression. C'est en d'autres termes dire que cet arc va continuer à pousser la bourgeoisie à faire des minutes de silence pour les nazis, et à mettre en garde à vue les députés qui s'opposent à l'impérialisme. Notre message pour finir s'adresse à celles et ceux qui font face au talon de fer de l'impérialisme, aux militants des luttes de libération nationale qui voient les impasses des promesses régionalistes aujourd'hui et autres projets de dévolution, de décentralisation, à celles et ceux qui ont donné des années de prison et qui aujourd'hui voient le militantisme céder aux sirènes d'une Europe pacifiée sous le dôme d'or des États-Unis. Tout cela n'aura pas lieu parce que c'est la guerre qu'ont choisi les impérialistes. Donc de l'Irlande au Pays Basque en passant par la Corse, il n'y aura pas de résolution du conflit avec le pouvoir central. Ces processus sont toujours comme finalité la construction d'un bloc local de collaboration avec les États impérialistes. On s'adresse aux révolutionnaires, l'opposition à l'OTAN et à son caractère impérialiste est aujourd'hui l'élément fondamental de l'affrontement dans les pays occidentaux. C'est la résistance ailleurs et ici qui donne la force et crée les conditions de la victoire. On s'adresse aussi ici à Saint-Denis aux fils d'immigrés et aux filles d'immigrés et à tous ceux qui viennent d'Afrique. L'Afrique ne veut plus de la France et la France ne veut pas d'une Afrique libre. Elle vous humilie ici avec ses médias, comme ses médias humilient ici le maire de Saint-Denis. Et là-bas, elle conspire à reprendre de l'influence comme elle le fait aujourd'hui au Kenya ou en Angola. Donc nous vous invitons à rejoindre des comités, les organisations de comités politiques contre l'OTAN, contre l'impérialisme, contre le lit des peuples. Nous vaincrons. Merci.
Bonjour, mesdames et messieurs, camarades. Je vais essayer de m'exprimer en français. J'espère que tout le monde va le comprendre. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour attirer l'attention sur une réalité qui ne se situe pas loin de nous, mais qui reste trop souvent cachée en Europe, la situation des prisonniers politiques socialistes et communistes en Turquie. Donc, comme on a dit, en février 2026, une délégation internationale composée des journalistes, d'universitaires, d'advocats et d'activistes s'est rendue à Istanbul. Et son objectif était simple et légitime, mener une mission d'enquête sur les conditions de détention dans les prisons turques d'haute sécurité. Il s'agissait des prisons dites de type SRIY, des lieux où des personnes, des prisonniers politiques, sont détenus dans des conditions qu'il est difficile de qualifier autrement qu'inhumaines. Isolement total, liberté de mouvement minimale et presque aucun contact avec le monde extérieur. Cette répression vise en particulier les activistes de gauche, parmi eux des membres du Front Populaire, un mouvement marxiste-léniniste engagé dans les luttes sociales, ainsi que des artistes du collectif musical Kupiorum, qui sont depuis des années la cible de la répression étatique. La délégation était composée de représentants de plusieurs pays, dont l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la Russie. Même une visite officielle des prisons avait, sur le papier, été autorisée par les autorités turques. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Après nos premières rencontres avec les advocats turcs et avec d'anciens prisonniers, on a été soudainement arrêtés. Et brutalement, sans raison claire. Nous sommes transférés dans un centre de détention pour des migrants où, selon la loi turque, des personnes peuvent être retenues pendant des mois sans procès. Aucune inculpation n'a été jamais formulée. À la place, nous sommes été expulsés du pays dans 24 heures. Non pas par souci de justice, mais sous la pression d'attention médiatique internationale. Et dès lors, une question simple s'impose. Pourquoi un État a-t-il peur d'une petite mission humanitaire légale et indépendante? La réponse se trouve dans l'histoire. Depuis la guerre froide, la Turquie s'est positionnée du côté de l'Occident capitaliste et impérialiste. En 1952, elle a rejoint l'OTAN. La position de Turquie était très importante pour le monde capitaliste et impérialiste. C'était l'une des plus larges armées de l'OTAN et se trouvait dans une position géographique pour couper l'Union soviétique du Moyen-Orient. Mais à partir des années 60, une forte opposition de gauche s'est développée dans le pays parmi les étudiants, les travailleurs et dans certaines régions rurales. Cette opposition n'a pas été tolérée. Après le coup d'État militaire en 1980, le pays a été soumis à une répression sévère. Des dizaines de milliers de personnes ont été emprisonnées. La torture n'était pas une exception, mais un système. Dans des prisons comme celle de Diyarbakir, des détenus sont morts sous les coups. Ce qui a suivi n'est pas été une rupture, mais une continuité sous une autre forme d'une répression militaire ouverte vers un état sécuritaire permanent. Dans l'année 2000, les prisons de type F ont été introduites, petites cellules et isolement strict. L'objectif était clair, briser ce que l'on ne pouvait pas contrôler. La résistance a été forte, grève de faim, protestation et finalement une opération militaire violente qui a coûté la vie à des dizaines de prisonniers. Aujourd'hui, on a les prisons de type S, R et Y. C'est une infrastructure moderne, dit-on, mais en réalité, ce sont ce que certains appellent à juste titre des puits d'oubli. Des cellules de 4 mètres sur 4, 22 heures et demie d'enfermement par jour, presque pas de lumière, presque pas d'air, presque aucun contact humain. Ce n'est plus une détention, c'est un isolement systématique. Et pourtant, malgré tout, la résistance persiste. Des prisonniers étant des grèves de la faim, parfois jusqu'à la mort, non seulement par désespoir, mais par conviction, par refus de céder. Et la solidarité internationale grandit également. Des campagnes sont organisées, des actions sont menées, des gens refusent de détourner le regard. La mission d'enquête de février s'inscrivait dans cet effort et la réaction de l'État turc, elle, en dit long. Car un État qui n'a rien à cacher ne réagit pas par des arrestations et des expulsions. Il autorise les observateurs, il fait preuve de transparence. Ici, c'est l'inverse. Soyons honnêtes, penser que la pression politique et la répression n'ont rien à voir avec nous, c'est une grave erreur politique. Ici aussi, dans mon pays, Belgique, il existe des conflits réels entre les activistes et l'État. Ils apparaissent particulièrement autour de trois axes, les mobilisations pro-palestiniennes, l'activisme climatique et les mouvements anticapitalistes. On y observe un certain schéma. À Bruxelles et ailleurs, des activistes dénoncent à plusieurs reprises des violences policières, des arrestations musclées et des formes d'intimidation lors des manifestations. Certaines mobilisations sont restreintes, voire interdites ou soumises à des conditions si strictes que leur impact est fortement réduit. Et ceux qui vont plus loin, qui bloquent, occupent ou perturbent réellement l'ordre économique et l'ordre impérialiste, font rapidement face à des poursuites judiciaires. On doit rester rigoureux. Cela ne signifie pas que nous vivons aujourd'hui en Belgique le même niveau de répression qu'en Turquie. Mais le cœur du débat est ailleurs. Il s'agit de comprendre comment fonctionne la répression aujourd'hui. Selon une analyse critique, elle n'est pas absente dans la Belgique, mais elle est plus subtile, moins visible, moins spectaculaire, mais pas moins réelle. Nous n'avons
pas des emprisonnements de masse, mais la pression par les interventions policières qui testent et parfois dépassent les limites, par des procédures judiciaires qui épuisent les activistes financièrement et mentalement, par un cadrage médiatique qui présente certaines formes de protestation comme des extrêmes ou des irresponsables. Et surtout, cette pression semble viser en priorité les mouvements qui ne se contentent pas de protester, mais qui remettent en cause le système lui-même. Ça, c'est un point essentiel, car une manifestation qui reste dans les limites est généralement tolérée, mais un mouvement qui remet en cause ses limites économiques, géopolitiques ou idéologiques rencontre plus rapidement la résistance. Ce n'est pas un hasard. La classe politique actuelle s'aligne clairement sur l'OTAN et la ligne géopolitique occidentale. Cela a des conséquences non seulement à l'international, mais aussi à l'intérieur, dans la manière dont l'opposition à cette ligne est perçue et traitée. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une comparaison directe avec la Turquie, mais il serait irresponsable de croire que géopolitique et répression intérieure sont séparées. Les systèmes évoluent, pas toujours par des ruptures brutales, mais souvent par des glissements progressifs. La Belgique ne fonctionne pas dans un vide, mais au sein de structures impérialistes plus larges comme l'OTAN et l'Union européenne. Sous l'effet des discours sécuritaires, des tensions géopolitiques et des engagements internationaux, on observe un renforcement progressif du contrôle et du maintien de l'ordre impérialiste. C'est la même chose avec les soi-disant délits d'opinion où l'on a tenté de durcir les lois. Cela se traduit ici aussi par un durcissement, plus de pouvoir sur la police et les services de sécurité, une approche plus stricte des protestations jugées perturbatrices et une tolérance décroissante envers les formes d'activisme qui sortent du cadre établi. Cela ne se fait pas de la même manière ni de la même intensité qu'en Turquie, mais croire que telles évolutions sont impossibles en Europe, c'est sous-estimer la manière dont les systèmes s'adaptent aux réalités nouvelles. La répression vient rarement d'un seul coup, elle s'installe progressivement. Et c'est précisément pour cela que la vigilance et la lutte anti-impérialiste est essentielle. Et c'est précisément pour cela qu'il est important que nous continuions à parler, à nommer ce qui se passe, à refuser que des êtres humains disparaissent dans l'isolement sans voix, à continuer, même ici, à exercer une pression. Car au fond, tout se remue à ceci, tant qu'il existe des prisonniers politiques, il existe aussi le devoir de ne pas les oublier. Je vous remercie.
Et vous êtes de retour dans l'actualité des luttes, et ce jusqu'à 13h30. Et on continue de vous diffuser le montage de la... que nous avons réalisé sur la conférence internationale sur les prisonniers politiques qui se déroulait le samedi 11 avril 2026 dernier à Saint-Denis.
Nous commençons deuxième partie de notre conférence des prisonniers politiques et solidarité avec les prisonniers politiques. Dans cette deuxième session, nous aurons le plaisir de l'intervenant Mohamed Khatibi, coordinateur en Europe de Samoudine, qui va nous parler des prisonniers politiques palestiniens dans les géoles sionistes. Puis nous aurons notre camarade, il va lire deux communiqués, une émanant de l'avocat Alejandra, avocat de Marie-José Banos, et puis celle de Tingo. Tout de suite, je donne la parole à Mohamed Khatibi.
Thank you, comrades. Thank you so much, comrades, for organizing this conference, for inviting us as Samidun to take a place in this conference. I am sure many of you are very much engaged in the Palestinian liberation movement and the solidarity movement, and you are aware about the current situation and the history of the Palestinian political prisoners movement.
Merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence et de nous avoir invités, Samidun, à prendre la parole. Je suis sûr que nombre d'entre vous sont engagés dans le mouvement de solidarité pour la libération de la Palestine et que vous êtes au courant de la situation actuelle et de l'histoire du mouvement des prisonniers politiques palestiniens. Mais je vais rapidement rappeler l'histoire de ce mouvement. Historiquement, ce mouvement existe avant le mouvement de libération palestinien, PFLP, Fatah, FLP, et aussi après le Hamas, le Djihad islamique. Toutes ces organisations politiques palestiniennes ont été formées dans les années 60. Le mouvement des prisonniers politiques palestiniens, lui, commence dès les premières résistances contre l'occupation Hoffman et continue lors de toute la colonisation anglaise, donc aux années 1930, dans l'héritage et dans les mémoires du peuple palestinien actuellement, dans les musiques qui racontent les résistances avec toutes les exactions et notamment les témoignages, les exécutions de prisonniers, lorsque dans les chants, dans les rassemblements, dans les renvois et la solidarité que l'on a vis-à-vis des prisonniers politiques palestiniens. On se réfère encore à cette histoire de résistance qui ne s'est jamais arrêtée. Aussi, il faut rappeler que le mouvement des prisonniers politiques palestiniens dans les années 70, dans les années 80, ce n'était pas seulement un mouvement palestinien, c'était un mouvement internationaliste. Dans les prisons sionistes, il y avait des Libanais, des Syriens, des Irakiens, des Yéménites et des internationalistes qui étaient venus pour se battre avec le peuple palestinien pour sa libération. À cette époque, en Europe aussi, et dans les pays impérialistes, nous avions des camarades qui étaient ou palestiniens ou internationalistes qui faisaient face aussi à des incarcérations. Donc l'histoire de ce mouvement est très long et il contribue à l'ensemble des luttes. À travers la littérature, les essais, on réussit à transformer la prison en un camp d'entraînement pour la liberté. Les militants, les combattants utilisent la prison comme un outil pour organiser et mobiliser. Et pour cette raison, quand nous nous référons aux prisons, nous les appelons les châteaux de la résistance. Parce que, par exemple, ces 20 dernières années, l'occupation sioniste arrête des enfants, des innocents. Et la plupart de ces gens n'étaient pas organisés avant, ou n'étaient jamais allés à un meeting politique avant, ou encore à un événement politique.
il y a des formes complètement apolitiques. Donc elles ont été justement un espace d'organisation de résistance, un endroit dans lequel sont formés les résistants, mais aussi les leaders, les travailleurs sociaux, les enseignants. C'est un espace dans lequel on se retrouve, on étudie, on construit collectivement une conscience politique et aussi une éducation collective. Donc aussi pour les politiques et prisonniers politiques, ils ont beaucoup travaillé à notre unité, dont vit des moments difficiles dans ces moments difficiles, où le peuple palestinien est divisé entre la banque de Gaza et puis la Cisjordanie aussi pour les questions politiques. Et le mouvement politique a toujours été un espace de coordination et un espace dans lequel on a forgé l'unité, et sa contribution politique est très très importante dans la lutte de libération et le mouvement de libération. Concernant les militants qui ont été martyrs au 7 octobre et puis à la suite du 7 octobre, et dans les luttes de la révolution palestinienne de ces deux ou trois dernières années, ils ont grandi en prison. Ces leaders ont été formés en prison, ils étaient dans des groupes de lutte et dans des espaces d'organisation qui sont faits, une fois de plus, et d'éducation qui sont faits à l'intérieur des prisons même. Donc durant les espaces d'occupation, les prisons d'occupation. Aujourd'hui, la situation est à peu près la même. Aujourd'hui, on a une occupation sioniste dans les prisons palestiniennes, syriennes, libanaises. La chose n'a absolument pas changé. Il y a énormément de Syriens aussi qui sont passés dans les dernières années du fait de la situation du changement politique en Syrie. Nous n'avons On n'a pas accès au soutien médical, aux formes les plus minimales. C'est très difficile. La plupart de leurs droits leur sont complètement niés sur les questions les plus fondamentales telles que la santé. Sachant que nous sont littéralement kidnappés dans le cadre de cette situation. Donc c'est pas surprenant qu'il y a des Syriens, des Libanais qui sont dans ces prisons. Cela montre aussi que c'est pas seulement une conséquence de ça, de la répression, c'est aussi ça montre que les Irakiens, les Libanais sont aussi de retour dans la lutte et qu'ils sont réellement en train de se battre en tant que peuple arabe et en tant qu'arabe dans toute la région pour la libération des Palestiniens, mais aussi en général, c'est l'enjeu de tout le peuple arabe qui est en jeu là. Et on pense aussi évidemment à la diaspora, on n'est plus seulement au Liban, en Jordanie, etc. On a aussi une énorme communauté en Europe, communauté du Hezbollah, communauté aussi en Amérique, une énorme communauté en Amérique du Nord. Et puis bien sûr, au même moment, on a des organisations de solidarité qui se font au niveau international. Donc voilà, nous avons des Palestiniens en France qui ont été arrêtés. Nous avons une campagne qui a été menée, il y a des organisations qui se battent pour la libération de Alif et Ali. On essaie de suivre cette situation des politiques régionales, de monter les campagnes pour les réfugiés et aussi pour les prisonniers. En Italie, il y a aussi une situation avec des prisonniers politiques aussi en Italie, pour Mohamed Hanoun, pour d'autres Palestiniens. En Belgique aussi, on a des militants qui ont été arrêtés, des Palestiniens arrêtés comme réfugiés. Et puis, il y a des Palestiniens aussi qui sont dans les prisons sionistes. Et nous avons aussi des militants internationalistes, des activistes comme par exemple Action Palestine en Belgique ou en Allemagne, qui ont des suites judiciaires. Et donc on voit toutes ces personnes comme faisant partie du mouvement national de libération palestinien. Donc on ne peut pas seulement se mobiliser pour la question des prisonniers politiques en Israël, mais en fait on doit se poser la question d'une manière internationale sur le mouvement de libération palestinien et du mouvement internationaliste politique. Donc c'est immédiatement politique, immédiatement international, dans les espaces, dans le cœur impérialiste. Parce que l'entité sioniste, elle est dangereuse autant que oui, toute défaite qui est contre l'organisation israélienne, contre l'entité israélienne, l'entité sioniste, c'est aussi une défaite de toutes les forces qu'il y a du cœur impérialiste. Donc, le Knesset vient de voter donc le droit à l'exécution des Palestiniens. C'est pas une nouveauté parce que les prisonniers politiques palestiniens ont toujours été exécutés et en prison, mais de manière illégale. La différence maintenant, c'est simplement que c'est devenu une loi, que ça a été fait loi et que cela a été approuvé par le Parlement. En réalité, une fois de plus, c'est arrivé depuis, pour des fois, des milliers de Palestiniens qui ont été victimes, qui ont été subi des interrogatoires, de la torture, de l'isolation, de l'isolement. Mais là, on a choisi de légaliser une pratique. Donc en faisant ça, l'antisioniste montre sa face, son visage colonial, fasciste. Et donc pour nous, pour Samidoun, et pour nous, le mouvement de libération nationale palestinien, nous voyons les prisonniers politiques pour la Palestine, pas du tout comme des victimes, nous les voyons comme les leaders du mouvement, nous les voyons comme les leaders de la Palestine de demain. Et qui font face à l'autorité corrompue de Palestine, qu'on est traîtres de la Palestine. Ils sont en prison pour des raisons, parce qu'ils sont le cœur du mouvement. Et ce sont des combattants de libération. Ce sont des enfants, des hommes qui s'occupent des femmes, qui ont à cœur l'avenir de la société. Et ce sont eux qui, depuis le 7 octobre, mais même aussi avant, qui sont en confrontation permanente et quotidienne avec les sionistes, à travers les prisons. Dans les prisons, ils se battent pour leurs droits, pour leurs droits les plus fondamentaux. Et puis même si... Et tout cela a été à travers les luttes depuis les coussins, les matelas jusqu'à la nourriture. Chaque élément est un élément de combat. Il faut des grèves de la faim. Beaucoup de combattants de la liberté meurent en prison, ils meurent de grève de la faim. Donc évidemment, nous engageons pour eux et nous appelons à jouer leur rôle à l'intérieur du mouvement et nous mettons pour la libération, pas seulement parce que ce sont des personnes qui ont besoin ou parce qu'ils ont besoin de notre empathie ou parce qu'ils ont besoin de notre support, de notre soutien, mais parce qu'on dégage, nous sommes dégage de la force. Et ils prouvent à quel point ils ont été capables de faire des attaques armées de résistance qui sont organisées, mobilisées depuis l'intérieur des prisons. Et ceci est vraiment important parce que Israël est défait par le 7 octobre, mais aussi à l'intérieur des prisons, mais aussi à cause du fait de cette histoire des prisonniers politiques palestiniens. Donc notre campagne principale à Samidoun et avec beaucoup d'autres organisations qui sont mobilisées, libérons les prisonniers politiques en Europe et en Amérique, libérer les activistes pour la Palestine depuis les prisons européennes. Et c'est très important pour nous, puisque nous sommes les peuples, nous avons besoin d'être engagés. Et finalement, la campagne la plus importante, avec beaucoup d'organisations, a de fermer la prison pour femmes. Non. Et la résistance. Donc, donc tout ça est une part, une fois de plus, d'un engagement politique international aux Philippines, en Europe, en Amérique et partout. Et la libération de la Palestine et des prisonniers politiques palestiniens dépendent de la libération de chaque prisonnier politique et donc de la défaite du colonialisme, du sionisme. Je vous remercie.
Nous continuerons maintenant avec une vidéo des témoignages de Doğan Karataş. Je l'explique un petit peu, Doğan Karataş. Doğan Karataş a été arrêté par le complot du fascisme du pouvoir d'Ankara et incarcéré dans une prison des types SRY, donc puis. Puis il a entamé une grève de la faim pour être transféré dans une prison normale. Donc, et après 146 jours de grève de la faim, le 10 mars, il a été transféré dans une prison en dehors de SRY. Puis le même soir, le même jour, le soir, il a été libéré.
Siyasi boyutuyla asıl olarak ele alırsak, hepimiz de çok iyi biliyoruz emperyalizmin bizzat örgütlenmiş olduğu ve bugüne kadar da değişik isim ve zamanlarda ülkemizdeki muhalefeti bastırmak, devrimci mücadeleyi tasfiye etmek için kullanmış olduğu bir araç olarak görüyoruz.
Notre camarade Doğan Karataş, il parlait de la lutte, la lutte de l'extérieur. Or, la Turquie, c'est un régime fascisant, actuellement sur la domination de l'impérialisme. Et il y a plusieurs projets, dont l'une des bases de ce projet, c'est construire une garnison de l'OTAN pour mieux contrôler donc la Turquie, mais en dehors de la Turquie, la région et les détroits de Bosphore et d'Ardennes. Et pour ça, il faut que le régime, ainsi que l'OTAN, il faut que il anéantit, comme on peut dire, oui, qui est tous les mouvements révolutionnaires et celles qui s'opposent. Notre camarade, il parlait, notre lutte, c'est la lutte entre le socialisme et l'impérialisme. Notre lutte entre la lutte de classe contre le fascisme. Il dit, nous avons mené cette lutte précédemment dans des prisons de type F, où nous sommes sortis victorieux, et nous mènerons aussi, autant qu'est nécessaire, la lutte contre les prisons de type S, R, Y, donc puis, jusqu'à ce que nous serons victorieux. Or, c'est une lutte dans tous les sens du mot. Hein. C'est un peu le résumé de ce qui c'était son intervention. Donc, nous remercions notre camarade Doğan Karataş. Maintenant, notre camarade Jean-Pascal, il va nous lire deux communiqués. Une émanant de Tinka, le prisonnier politique basque qu'il résiste toujours dans la prison des Espagnols. L'autre émanant de Maître Alejandra, avocat de Madame Maria José Banas, incarcérée depuis 35 ans dans la prison espagnole pour son appartenance au mouvement Crapaud qui lutte depuis 1975 contre le fascisme et contre le pouvoir en Espagne.
Je vais commencer. Bon, donc Tinko, c'est un petit texte qui dit donc depuis l'organisation Tinko de Scaleria, nous souhaitons adresser un salut révolutionnaire fraternel à tous les participants de la conférence internationale de solidarité avec les prisonniers politiques. Nous vivons une période difficile où le capitalisme montre son visage le plus agressif, permettant aux éléments les plus réactionnaires de s'imposer, d'imposer des formes de domination fasciste, de mener des guerres impérialistes et d'imposer la militarisation des rues, entre autres. C'est dans ce contexte que la classe ouvrière et les peuples opprimés continuent de résister face à toutes sortes de barbaries et de subir dans leur chair la torture, les assassinats, les détentions, le manque de soins médicaux dans les prisons, etc. Face à cette situation, Tinko, l'organisation antirépressive de Scaleria, qui lutte pour l'amnistie totale et pour tisser des réseaux de solidarité face à la répression généralisée, lance un appel internationaliste à la solidarité avec tous les peuples, les prisonniers politiques du monde qui restent fermes face à la répression sans renoncer à leurs idéaux anticapitalistes, anti-impérialistes, antifascistes, fortes contre la répression, amnistie totale. Aussi, donc, déclaration des prisonniers basques qui est donc liée à Tinko.
Tout d'abord, nous souhaitons saluer chaleureusement l'ensemble des organisations et des personnes réunies à cette conférence. En tant que prisonniers politiques basques, nous aimerions vous parler de la situation actuelle de la résistance et de la lutte au sein des prisons basques. Toutefois, nous sommes conscients que ce n'est ni le format idéal, ni le moment opportun pour approfondir le sujet, qui a connu de nombreux changements dans un laps relativement court. En ce qui concerne le concept universel de prisonnier politique, il ne peut être compris sans des notions telles que la dignité, la cohérence, la résistance et la lutte, ainsi que l'engagement envers le projet sociopolitique que nous avons défendu dans la rue, enfin social et politique que nous avons mené dans la rue et que nous continuons à défendre en prison. Nous ne sommes rien de plus que des militants politiques emprisonnés, et c'est ainsi que nous devons être considérés en nous imposant à nous-mêmes les mêmes exigences que celles que nous avons envers nos camarades de lutte. Nous n'avons aucune leçon à donner, mais beaucoup à prendre de tous ceux et celles qui ont vécu cette situation, voire pire que nous. Nous sommes le fruit de l'expérience de l'engagement militant de celles et ceux qui nous ont précédés. Tel est notre héritage et en même temps notre responsabilité, nous l'assumons avec fierté. Nous souhaitons rappeler à tous nos camarades à travers le monde qui subissent aujourd'hui dans les prisons l'oppression brutale du capital, que chaque seconde passée derrière les barreaux est une épreuve de lutte et de résistance. Nous voulons mentionner en particulier les hommes, les femmes, les enfants palestiniens et emprisonnés et torturés par le sionisme meurtrier. Nous faisons nôtres toutes les revendications issues des cellules où sont les détenus et les prisonniers politiques. Et à leur côté, nous exigeons l'amnistie totale et proclamons haut et fort que la lutte est la seule voie possible. Enfin, nous souhaitons profiter de l'occasion que vous offrez pour inviter toute organisation et toute personne intéressée par la situation actuelle des prisonniers politiques basques à nous contacter afin d'ouvrir des canaux de solidarité et de contribuer à la lutte et les droits politiques militants. Merci. Prechoa Kalera, Amnistia Osoa. Mikel Sebastian, Garikoitz Echibaria et John Kepa Preciado, centre pénitentiaire d'Alawa. Donc c'est depuis là qu'ils nous écrivent depuis Alawa. Maintenant, ce sera donc le communiqué donc, que nous a préparé Alejandra. Donc, Alejandra disait, avant toute chose, donc, elle tenait à remercier le Front anticapitaliste de l'avoir invité et d'avoir donc, permis de participer à ces journées, qu'ils auraient aimé être présents, mais que pour diverses raisons, ça a été totalement impossible. Elle souhaite néanmoins en profiter pour revenir et dénoncer la situation dans laquelle se trouve leur camarade Maria José Baños Sandujar. Maria José est une prisonnière politique du Grapo. Elle a plus de 60 ans et elle est incarcérée depuis maintenant plus de 20 ans. Pendant tout ce temps, son état s'est gravement détérioré. Elle souffre de plusieurs maladies très sérieuses, dont un VIH à stade avancé, une hépatite, ainsi que d'autres problèmes médicaux qui se sont aggravés au fil des années. Aujourd'hui, son état physique est extrêmement fragilisé et sa vie est en danger réel. Chaque jour qu'elle passe en prison sans recevoir les soins médicaux appropriés. Depuis 2 ans, ils se battent pour sa libération. Mais ces derniers mois, ils ont vu s'intensifier la campagne en raison de l'aggravation de son état de santé. En février dernier, Maria José a dû passer plusieurs jours à l'infirmerie de la prison en raison de son extrême faiblesse. Cet épisode a une nouvelle fois mis en évidence la gravité de la situation et a contribué à renforcer encore la campagne pour sa libération. La pression exercée dans la rue, mais aussi à l'intérieur des prisons, où plusieurs prisonniers politiques mènent depuis des mois des jeûnes hebdomadaires en solidarité avec elle, a contraint l'État à faire quelques pas en avant. Dans ce contexte de mobilisation, à la fin du mois dernier, l'audience nationale a officiellement reconnu que Maria José est atteinte d'une maladie grave et incurable, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure en vue de sa libération conditionnelle. Cependant, ce qui aurait dû être une simple formalité administrative pour sa libération s'est transformé en un nouveau blocage. Le juge chargé de son dossier retarde la décision autant que possible, cherchant n'importe quel prétexte pour repousser sa libération. Nous savons parfaitement qu'il s'agit là d'une question juridique, ni d'une question juridique, ni d'une question personnelle d'un juge. Il s'agit d'une décision politique qui répond à la volonté de l'État espagnol de maintenir Maria José en prison jusqu'au bout, même si cela signifie la laisser mourir derrière les barreaux. C'est pourquoi nous souhaitons aujourd'hui lancer également un appel à toutes les organisations révolutionnaires et solidaires qui nous écoutent. Il est nécessaire d'intensifier la campagne, de multiplier les dénonciations et de renforcer la mobilisation jusqu'à obtenir sa libération, parce que Maria José ne peut plus attendre, parce qu'après plus de 20 ans de prison et atteint d'une maladie grave et incurable, la maintenir incarcérée est une véritable aberration, et parce que la solidarité
avec les prisonnières et les, prisonnières et les prisonniers politiques est une responsabilité de l'ensemble du mouvement. Liberté immédiate pour Maria José Baños.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.